Dans l'Évangile, nous voyons le jeune homme riche qui demande que faire pour avoir la vie éternelle. Pour avoir. Ça, c'est un gros problème. Parce que l'Évangile nous concerne tous, n'est-ce pas? Y compris celui-là. Et l'Évangile n'a pas que une résonance matérielle ou une visée morale, mais c'est dans l'Évangile, il y a toute une portée mystique, si je puis l'appeler comme ça. C'est-à-dire nous interpellant au niveau de la vie spirituelle, de la vie de la communion avec Dieu, de la déification. Et comme ce jeune homme, ce qui nous paralyse dans notre vie spirituelle, c'est cette propension, à vouloir avoir. Je veux acquérir, je veux posséder. Pas simplement des biens matériels, mais même des choses qui, a priori, seraient louables. Par exemple, je voudrais avoir des vertus, ou telle vertu. Je voudrais avoir la prière, je voudrais avoir la connaissance des Saintes Écritures, je voudrais voir la gloire de Dieu, autant que faire se peut, bien sûr, parce que nous restons humbles. Mais cette volonté d'avoir, comme pour le jeune homme riche, est une paralysie pour notre connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur lui répond. C'est entre autres pour ça que le Seigneur lui répond. Commence déjà à pratiquer les commandements. C'est globalement ce que nous essayons de faire aussi. Avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de réussite, mais c'est ce que nous essayons de faire les uns et les autres. Et pourtant, ça ne nous satisfait pas. Ça ne nous satisfait pas parce que il y a dans le cœur de l'homme, à partir du moment où il est en contact avec l'autre, et notamment avec Dieu, il y a cette attirance à vouloir davantage, j'ai pas dit avoir davantage, mais à vouloir davantage, à vouloir aimer davantage, à vouloir approfondir. D'où notre question à nous aussi, que faire pour avoir la vie éternelle, car tout cela, je le pratique déjà depuis ma jeunesse, et pourtant ça ne me suffit pas. C'est un appel que nous avons tous dans notre cœur et que nous devons cultiver. Et cet appel est aussi crucifiant parce que nous ne sommes jamais à la hauteur de ce que nous désirerions. Nous ne sommes jamais à la hauteur de l'amour auquel notre cœur se prépare, auquel notre cœur aspire. C'est une loi que Dieu a inscrite dans nos cœurs et qui est un aspect de notre ressemblance avec lui. Dieu est amour. Et l'amour nécessite un agrandissement, un accroissement perpétuel et éternel de cet amour. L'amour demande perpétuellement à être partagé. D'où l'injonction du Christ à plusieurs moments, et puis l'importance et l'insistance des apôtres et de toute l'Église sur le pardon. Ne pas pardonner, c'est le contraire de l'amour. Pardonner, c'est tout abandonner pour l'autre. Évidemment, je ne parle pas d'un amour affectif, encore que ce domaine-là en fasse partie. Et donc créé à l'image de Dieu, nous avons inscrit en nous cette, 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 attirance à aimer davantage et à être aimé davantage. C'est pour cela que le jeune homme dit, tout ça déjà fait, mais que faire d'autre? Et le Seigneur lui répond, si tu veux être parfait. Or, il avait dit, à un moment donné, pour solliciter le jeune homme, il avait dit, mais un seul est bon, Dieu. Et si tu veux être parfait, ça veut dire que tu veux être bon, toi aussi. C'est-à-dire que tu veux ressembler à Dieu. Et si tu veux ressembler à, si tu veux ressembler à Dieu, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Qu'est-ce qui vous intéresse exactement? Le donne tout aux pauvres, c'est là encore pas uniquement une question morale ou une question matérielle, c'est pas simplement un appel à la charité au sens vulgaire du terme, au sens courant du terme, mais c'est un appel à donner ce que l'on a, on est nous-mêmes, à nous donner nous-mêmes, à nous abandonner, à abandonner notre volonté d'avoir, même dans la vie spirituelle. Nous ne pouvons pas constamment, nous ne pouvons pas orienter notre vie spirituelle pour acquérir quelque chose, acquérir l'amour de Dieu, acquérir tel don, acquérir telle vertu, même les meilleurs, même les plus élémentaires. À un moment donné dans nos vies, il faut dételer, il faut se détacher de tout, même de notre volonté de salut. On a tous la volonté d'être sauvés, bien sûr. Mais notre confiance à Dieu, en Dieu, notre confiance doit être telle qu'on n'a pas à se préoccuper d'avoir le salut ou d'acquérir le salut. Il faut tout vendre, tout donner. Et dans tous les domaines. C'est une des choses que nous chantons à la liturgie quand on dit « déposons tout souci de cette vie ». Déposons tout souci du monde, etc. C'est pas simplement de déposer nos soucis de salaire, de retraite, de profession, de compte en banque ou je ne sais pas quoi encore, ou de programme, etc. Déposer tout souci du monde, c'est ne plus se préoccuper de ces choses-là. Simplement d'avoir la volonté simple, mais profonde, d'être avec Dieu, de s'occuper de lui, de manière à ce qu'il... Je lui attribue des sentiments humains, évidemment caricaturaux, mais comme si on lui disait « fais attention à moi ». Bien sûr qu'il fait attention à nous, il n'y a pas besoin de lui demander. Mais notre prière, notre ascèse, notre effort de conversion est une manière de nous présenter devant Dieu comme des miroirs qui s'orientent, si vous voulez, pour recevoir la lumière du soleil. Mais le soleil, on ne peut pas l'acquérir par nous-mêmes. D'ailleurs, à la fin de l'évangile lu aujourd'hui, les apôtres, les disciples demandent « Mais qui donc peut être sauvé ?» Et le Seigneur répond « Mais ça, ce n'est pas possible aux hommes. C'est simplement possible à Dieu. » Donc, ce n'est même pas par l'acquisition des vertus. Et pourtant, je vous invite à essayer de les suivre. Et évidemment, c'est un refus de notre morale traditionnelle. Mais c'est pour dire que ça ne suffit pas. Il faut que s'en remettre totalement à Dieu par amour pour lui. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et ça, on peut l'apprendre tout au long de notre vie. Et on doit le pratiquer toute notre vie, mais on va le pratiquer bon gré mal gré au moment de notre mort. Ou on va se cramponner en disant « je ne veux pas partir, je ne veux pas partir, je veux être là, je veux rester ». Ou alors on va dire « Seigneur, je sais que je suis indigne, j'ai vécu comme j'ai pu, mais je n'ai pas forcément bien fait. Je me suis souvent planté, je me suis trompé, je t'ai pas voulu, quelquefois je t'ai renié. Et après tout, puisque je t'aime, ben fais ce que tu veux de moi. » Et ça, c'est tout au long de notre vie qu'on peut le faire. Dans pas dans l'évangile que nous avons lu, pas selon Saint Matthieu, mais selon Saint Marc, et on voit que le Seigneur, après la réponse du jeune homme, jette les yeux sur lui. C'est-à-dire qu'il crée, parce que Dieu a l'initiative, Dieu crée une relation personnelle entre lui et celui auquel il parle, entre lui et celui qui s'est adressé à lui, enfin, le jeune homme. Et avec cette relation, le Seigneur, en posant ce regard, il sollicite une réponse d'un regard intérieur, évidemment, pas simplement du regard visuel. Et il sollicite une réponse, il suscite un don de la personne. Et pour ça, il lui dit « Viens et suis-moi ». Ayant, s'étant détaché de tout souci de cette vie, comme j'essayais de l'expliquer un petit peu avant, il dit maintenant que tu es libre, viens et suis-moi. C'est-à-dire, détache-toi de tout. Et ça, c'est c'est le sens de toute vocation chrétienne, suivre le Christ. Et suivre le Christ, c'est devenir ce qu'il est, vivre avec lui ce qu'il vit pour nous, y compris la croix et la mort, la résistance, la lutte contre les démons, et etc. C'est ça, suivre le Christ. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, on voit que le jeune homme ne capte pas le regard du Christ et finalement ne le suit pas. Et ça va contrister parce que il avait des grandes richesses. Les grandes richesses, c'est pas, une fois de plus, c'est pas simplement les grandes richesses matérielles, c'est aussi les richesses intérieures. Et ça, pour lui, finalement, parce qu'il a sollicité le Christ et que le Christ lui répond, ça devient un obstacle. S'il ne quitte pas, s'il ne n'abandonne pas ces richesses-là, il ne peut pas, il se met pas en disposition de suivre le Christ. Nos vies, c'est un drame. Un drame au sens de la tragédie, comme au sens théâtral, si vous voulez. Hein. C'est un drame, mais dont on connaît l'issue. L'issue, c'est notre salut. L'issue, c'est l'union à Dieu. L'issue, c'est la résurrection qui nous amène à la vie éternelle, c'est-à-dire à la vie divine. Et donc, c'est un drame, et dans nos vies, on passe quelquefois à côté d'occasions. On passe quelquefois, souvent, suivant les personnes, on passe à côté du regard du Christ. On l'a pas capté. Il nous a pas intéressé à ce moment-là. En quelque sorte, on s'est présenté comme oui, ben, tu me regardes, tu voudrais que je suive, enfin, plus tard, hein, j'ai le temps, laisse-moi vivre tranquille pour l'instant. Caricature, bien sûr. Mais l'évangile nous montre aussi que ça, je ne peux pas dire que ce soit sans importance. On passe à côté d'occasions, on passe à côté de vocations auxquelles Dieu nous a appelés. Mais nous croyons en Dieu. Nous l'avons vu parmi nous. Nous le voyons encore d'une autre manière aujourd'hui. Et nous savons que dans ces, si je peux l'appeler, ces attributs, Dieu est fidèle. Et quand Dieu nous appelle, non seulement il nous appelle, mais il est fidèle à cet appel. C'est-à-dire que même si on est passé à côté de l'occasion, Dieu continue, par ce regard qu'il avait posé un jour sur nous, il continue à nous appeler, parce que ce refus ou cette inattention de ce regard a ouvert une plaie en nous. Et cette plaie fait que toute notre vie, on cherche à retrouver le regard auprès duquel nous étions passés inattentifs. Et ceci suscite petit à petit notre conversion, suscite l'abandon de nous-mêmes, suscite presque involontairement cette mise à la disposition pour suivre le Christ, d'abandonner toute chose. Parce que ce que nous aurions cru, ce que nous avions espéré avoir, Au moment où il nous est accordé, nous ne le prenons pas. Et à ce moment-là, il y a toute notre vie, il y a un réappel, si je puis dire, pas très français, mais enfin, il y a un renouveau de cet appel, il y a un approfondissement de cet appel. Et c'est cela qui provoque en nous ce que l'on appelle le repentir, c'est-à-dire une transformation, un retournement de nos personnes, Seigneur, qui nous fait abandonner notre orgueil, comme celui du jeune homme riche, que l'on n'a pas appelé orgueilleux dans l'Évangile, mais qui était fier d'accomplir les commandements élémentaires auxquels le Christ le renvoie. Mais comme lui, nous sommes appelés à connaître l'humilité, à connaître à expérimenter douloureusement, quelquefois ou souvent, à expérimenter cette incapacité de nous sauver par nous-mêmes, cette incapacité d'avoir, pour nous mettre uniquement à la disposition de Dieu qui nous donne ce qui est bon par nature, comme il est dit dans l'Évangile tout à l'heure, et qui nous donne et qui nous procure au fur et à mesure ce qui est utile pour une conversion, mais profonde, intérieure, pas simplement morale. Voilà, l'aspect que je voulais vous dire aujourd'hui, en annonçant un petit peu, parce que ce sont des notions pas faciles à expliquer. Et pourtant, je crois qu'il faut lire l'Évangile aussi à ce niveau-là. Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'accomplir aussi la charité au niveau moral et au niveau matériel.